Alors bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Vraiment l'impression que c'est le jour de la rentrée. Hein. C'est... Alors vous savez, il y avait un tout petit avantage pour les personnes, il y a quelques semaines encore, qui s'adressaient à l'assistance. Quand l'Église était organisée dans le sens de la longueur, c'est qu'il y avait juste à déplacer, faire un mouvement des yeux, et on pouvait embrasser du regard la totalité des personnes. Alors aujourd'hui, si par exemple je veux regarder Florian, hein, ou Gavin, surtout Gavin d'ailleurs, hein, vous risquez d'entendre craquer, ce sont mes vertèbres. Hein. Voilà. Alors donc pour cette ce qui semble être notre rentrée à tous, hein, de quoi aurions-nous besoin? Peut-être certainement de tout ce qu'enfant de Dieu a besoin, à savoir d'avoir un cœur ou une âme calme et tranquille. Mais quelle piste? Parce qu'il y a des pistes, mais il y a les mauvaises et puis il y a la bonne piste. Alors quelques pensées ce matin sur ce thème-là, l'âme calme et tranquille dans la marche, dans notre marche personnelle d'enfant de Dieu et notre marche communautaire d'enfant de Dieu. Alors une petite introduction, la recherche de la sérénité et de l'épanouissement est depuis longtemps l'objet de la recherche des hommes. Alors, selon la théorie d'Abraham Maslow, qui est un célèbre psychologue juif américain, l'homme, sous-entendu la femme aussi, hein, n'atteint la plénitude et le succès que s'il satisfait à tous les domaines qu'il classe dans un ordre de priorité. Et donc, toujours selon Maslow, il a donc construit une pyramide, hein, de l'ascension vers cette plénitude tant recherchée. Et cette pyramide comporte 5 niveaux. Alors le premier palier, il est assez simple, il est d'ordre physiologique, hein, c'est à savoir les besoins de l'être humain de base qui concernent la nourriture, la boisson, la respiration. Et puis arrive tout de suite le second palier. Et le second palier parle déjà du besoin de sécurité de soi. Et ça concerne la santé, avoir un toit sur la tête, hein, le travail, la situation financière, etc. Ensuite vient l'autre palier, l'appartenance de soi. Et ce troisième palier concerne les groupes sociaux, les clubs, les relations amicales, sentimentales, la famille. Et dans ce palier, l'homme a besoin d'être entouré, de se sentir vivant. Et puis le quatrième palier parle de la reconnaissance de soi. Et ce palier traite de l'estime de soi, de bien s'aimer, hein, de la satisfaction personnelle, de tout ce qui permet d'être différent, important, de se sentir fier. L'homme a besoin de se sentir important pour les autres et de recevoir des éloges et de la reconnaissance. Et enfin, le cinquième palier qui lui est l'accomplissement de soi. Il regroupe la créativité, la célébrité, la réussite. L'homme va chercher à repousser ses limites au travers d'associations, des engagements, que ce soit dans le cadre d'une œuvre, d'un projet ou d'une entreprise. En fait, tout ce qui lui permet d'obtenir la satisfaction, la plénitude. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette introduction, François ? Alors nous ne pouvons pas être totalement contre ces outils, hein, qui peuvent en tout cas nous aider à comprendre certaines choses dans le cadre professionnel par exemple, et en particulier dans le management des personnes. Avoir connaissance de cette quête intérieure de l'homme peut nous permettre en quelque sorte de se faire une idée de la situation des personnes et de tenter de les aider. Mais vous conviendrez, enfin sans doute avec moi, dans l'ascension de cette pyramide qui est proposée, qu'en dehors des besoins primaires, nourriture, etc., qui est le premier palier, la totalité qui ressort des besoins de l'homme sont orientés vers lui. Vers le fait qu'il se sente bien, la reconnaissance de soi, par les autres et par soi-même, la plénitude de soi. Alors dans une telle dynamique, il est quasi certain que l'homme risque de passer à côté de l'essentiel. Et ces derniers temps, on a entendu à la radio concernant Michael Judson, son manager qui faisait état de la dernière conversation téléphonique qu'il avait avec lui. Et dans cette conversation téléphonique, Michael Judson disait qu'après avoir eu toute la réussite, après avoir tenté et réussi en partie même de changer jusqu'à la couleur de sa peau, hein, Michael Judson disait qu'il ne pouvait plus se voir, qu'il ne pouvait plus s'accepter, plus se supporter. Quelle tragédie que celle de la mauvaise quête, de l'erreur sur ce qu'est le vrai bonheur, la vraie paix, la tranquillité, la sérénité, l'âme calme et tranquille. Alors la parole de Dieu nous indique, elle, une forme de croissance et de marche ou de progression. Et elle nous indique vers qui tend cette montée ou cette progression. Elle nous indique de qui elle dépend. Et quel est l'aboutissement final, quel est son but. Alors les cantiques des cantiques, ou les marches également appelées psaumes graduelles, sont des chants, comme vous le savez, de montée, sont un ensemble de 15 psaumes, de 120 à 134. Alors bien des commentateurs de la parole de Dieu, et en particulier de ces psaumes, se sont un peu posés sur les moments sur lesquels ces psaumes étaient chantés. Hein. Et les pensées les plus largement partagées disent que cela concernait la montée des marches vers le temple, ou tout simplement que ces cantiques étaient chantés par les pèlerins dans leur montée vers Jérusalem. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, ce que nous pourrions retenir de ces psaumes, c'est qu'ils expriment une gradation ou une progression dans quoi ? Dans l'expérience de la vie de la foi. Et à l'opposé donc de la pyramide de Maslow, le besoin de base n'est pas physiologique ou psychologique, mais il est spirituel. Et toute la première marche, le psaume 120, consiste à crier à Dieu afin d'être délivré de nos mauvais penchants, de nos mauvaises habitudes, fréquentations ou occupations. Et dans chacune de ces marches, 120 à 134, se trouve quoi ? Se trouve l'esprit de dépendance, ainsi que de la reconnaissance de la toute-puissance et de la bonté de Dieu. Et pour terminer enfin à la marche 134, non sur la célébrité, non sur la réussite personnelle, mais sur l'expression et l'invitation à un chant de louange et de bénédiction à l'égard de l'Éternel. Voilà à quoi l'ascension dans l'expérience de la vie de la foi doit nous orienter, doit nous mener vers l'expression d'un chant et en tout cas d'un esprit de louange et de bénédiction à l'égard de l'Éternel. Alors ce qu'on peut essayer ce matin de partager simplement, c'est la 12e expérience, hein, sur les 15, puisqu'il y en a 15. Le psaume 131 est le 12e, en quelque sorte, la 12e marche sur 15 dans cette attention de l'expérience de la vie de la foi. Et je vous propose de lire donc ce psaume 131. Donc de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alors on dit que la France est la championne, et en tout cas le pays qui consomme le plus de tranquillisants au monde. Hein? Enfin, on le disait il y a quelque temps, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais il semble que oui. Hein? Combien d'âmes inquiètes, stressées, angoissées, qui n'a pas, et même au sein du peuple de Dieu, besoin d'avoir l'âme calme et tranquille. David a eu dans sa vie des moments de stress, c'est-à-dire des combats en tout genre, des égarements, des victoires, mais aussi des conditions de personnes traquées, poursuivies, en fuite. Mais dans chacune de ces expériences difficiles, il a su saisir l'occasion de se relever. Et comment l'a-t-il fait? L'a-t-il fait par le moyen de la reconnaissance de ses pairs? L'a-t-il fait par la recherche de la jouissance et de la plénitude de soi? L'a-t-il fait par la fierté de soi, par la réussite? Pas du tout. David a su saisir l'occasion de se relever comment? En retournant au Seigneur. Et dans le psaume 32, que nous avons d'ailleurs chanté en partie ce matin, au début, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » David a su revenir vers Dieu, se rapprocher de lui. C'est la personne Dieu, le lieu, le trône de la grâce et la position maître et souverain, où l'âme se trouve calme et tranquille auprès de Dieu. Alors, trois expériences ce matin proposées dans ce psaume. La première, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Alors, qui dans sa vie n'a pas eu de circonstances où son cœur s'enfle? Notre nature nous incite plus à nous mettre en avant, hein, à nous mettre en valeur, plutôt que le contraire. Et souvent dans nos discussions, moi, je... Nous avons plutôt à mettre en avant nos qualités, l'habitude de mettre en avant nos qualités, nos attributs positifs, plutôt que nos imperfections ou, psychologiquement parlant, nos axes d'amélioration. Hein. Et malheureusement, personne n'échappe à cette tendance. Et nous avons tous, sans exception, à prendre garde. Si David dit de son cœur qu'il n'a pas un cœur qui s'enfle, c'est que son cœur a été disposé à changer, à toujours finir par se tourner vers Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui dit à Samuel, parlant de David, qu'il s'est choisi un homme selon son cœur. C'est dans notre relation intime avec Dieu que ce changement s'opère. Et c'est la promesse de Dieu pour son peuple. J'enlèverai ce cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Mais le fera-t-il sans nous? Le fera-t-il sans nous? Suis-je à la recherche de mon bien-être ou à la recherche de la présence de Dieu dans ma vie? Malgré tout ce que David a vécu et particulièrement ses erreurs, ses fautes, David a su se tourner vers Dieu au bon moment pour y retrouver pardon, paix, sérénité. Je n'ai pas à attendre un moment favorable pour le faire. Le moment favorable pour me tourner vers Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant. Quelqu'un a dit, le changement, c'est maintenant. Alors l'état du cœur est très important pour avoir l'âme calme et tranquille. Ne pas avoir un cœur qui s'enfle ou des regards hautains, c'est en quelque sorte décentrer notre regard de nous-mêmes pour le porter vers Dieu. Alors vous me direz, mais François, aussi vers les autres? Oui, mais après, pour avoir un regard efficace vers mon frère ou vers ma sœur, je dois d'abord avoir porté mes regards vers Dieu. Le prérequis à l'âme tranquille, c'est d'avoir un cœur pur, c'est-à-dire purifié d'une mauvaise conscience. Un cœur tourné vers Dieu, voilà la première indication de l'expérience de la foi de la marche 131. Un cœur tourné vers Dieu. Ensuite, la deuxième expérience, ce que le psalmiste nous transmet, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Une autre version dit, je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et merveilleuses pour moi. Alors nous avons parlé de l'état du cœur, un cœur tourné vers Dieu. Et maintenant, je ne m'occupe pas de choses trop grandes pour moi. Il nous apparaît que c'est simplement le reflet d'une certaine sagesse que de connaître et d'appliquer ces deux éléments dans notre vie. Nous sommes les uns et les autres conçus pour supporter un certain nombre de choses ou de charges. Mais à cet égard, nous ne sommes pas tous égaux ou dotés des mêmes qualités ou des mêmes capacités à porter ou à supporter, par exemple. Tous les techniciens, il y en a quelques-uns dans la salle, vous diront qu'il ne faut jamais dépasser la charge pour laquelle un équipement est conçu. Les charges, les surcharges détériorent l'équipement en question. Je ne m'occupe pas de choses trop élevées pour moi. Le conseil est donc d'éviter les surcharges, les fardeaux trop pesants, inappropriés à ma capacité à les porter ou à les supporter. D'ailleurs, ces fardeaux peuvent même me rendre malade. La parole de Dieu nous invite, déchargez-vous de vos fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vos fardeaux pesants, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. C'est ce à quoi nous sommes invités ce matin, à réaliser que nous avons à nous décharger et à nous décharger sur lui des choses pesantes, trop pesantes pour nous, trop pesantes pour moi. Rappelez-vous ce psaume 73 que nous avons lu en partie lors de ma dernière intervention. Il s'agissait d'Azaph. Et Azaph s'occupait de choses trop grandes pour lui. Et de ce fait, ces choses avaient un impact négatif sur son âme. Et Azaph, il réfléchissait tout haut et disait, c'est à peu près les versets 1 à 13, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Hein, ça nous renvoie à ce que nous avons dit précédemment pour avoir l'âme tranquille, un cœur purifié. Toutefois, disait-il, mon pied allait fléchir, car je portais envie aux insensés. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence. Mais un peu plus loin, au verset 16, il dit, quand j'ai réfléchi, la difficulté fut grande à mes yeux. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes pour moi. Le pourquoi du bien, le pourquoi du mal, le pourquoi de la réussite, le pourquoi de la non-réussite, le pourquoi de telle situation vécue. Que de questions. Tant de choses qui nous dépassent et sur lesquelles nous ne devrions pas philosopher. Et finalement, y trouver une occasion de mal-être, voire y trouver une occasion de chute. Asaph a fini par comprendre au verset 21, il dit « Lorsque mon cœur s'est grissé, j'étais stupide et sans intelligence. » Asaph se posait des questions dont il ne pouvait pas avoir les réponses. Je veux avoir des réponses sur tout. Expliquez tout. Et si c'est le cas, alors, pour moi, c'est un signe de la non-acceptation de ma condition de limitation et de dépendance à Dieu. Et je pourrais peut-être faire cette prière. Dieu, tu es Dieu éternellement. Et je ne dois pas m'occuper de choses. De choses de quoi ? De choses que tu maîtrises parfaitement et qui sont trop grandes à saisir ou à porter pour moi. Ces choses qui me perturbent, Seigneur, tu les connais. Tu les maîtrises. Tu sais le pourquoi et le comment des choses, des événements, et je m'en remets à toi. C'est le deuxième trésor de cette expérience de la 12e marche, le psaume 131. Savoir reconnaître ses limites, s'en remettre à Dieu. Et c'est quelque part un signe d'humilité, mais également et surtout le signe de la confiance que nous avons en Dieu et de la confiance que nous devons à Dieu. Asaph a dit en quelque sorte, j'ai eu tort de m'occuper de cela, tort de penser cela. Il dit, j'étais comme les bêtes. Seigneur, tu sais toutes choses. Je ne veux ni ne peux prendre ta place. Je sais simplement que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, disait Job dans sa sagesse. La parole de Dieu à notre égard est encore plus directive et pratique dans la bouche de Paul. Rejeter tout fardeau. Vous voyez, c'était même pas simplement, c'est plus que les déposer, c'est de les rejeter. Alors nous en venons à la troisième expérience, donc de David. J'ai l'âme comme un enfant sevré. L'état de l'enfant qui est repu du lait de sa maman. Prêt à recevoir une nourriture plus adaptée, plus appropriée à son âge, pour aller plus loin. Luc 24, les versets 12 à 17, dans ce texte-là, le Seigneur pose cette question aux disciples. De quoi vous entretenez-vous en chemin ? De quoi vous entretenez-vous en chemin ? De quoi les disciples nourrissaient-ils son âme sur ce chemin ? Ils se nourrissaient d'une expérience d'une vie douloureuse, de fausses certitudes. Ils nourrissaient leur âme d'une nourriture qui les rendait tristes, malades. Ils nourrissaient leur âme d'une nourriture inappropriée, une nourriture dépassée. Pourquoi je dis ça ? Ils se nourrissaient de la mort de Christ alors que Christ était ressuscité. Ils se nourrissaient d'une nourriture dont la date de péremption était atteinte. Et puis, d'autres exemples, dans Genèse 37, il s'agit de Jacob. Jacob se nourrissait d'une pensée à la fois terrible, mais aussi fausse. Joseph, mon fils, est mort. Et cette pensée détruisait Jacob dans son âme, alors que son fils n'était pas mort. Et puis dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, « Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce dont je veux me nourrir en quelque sorte, ce qui me donnera de l'espérance. » Et vous connaissez la suite, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Si le poison, l'absinthe, ma propre misère personnelle, mes déceptions, l'épreuve, restent dans mes pensées, je dois les chasser. Je ne dois pas nourrir mon âme de ces pensées, mais plutôt m'accrocher aux bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées, mais qui pour moi sont appelées à se renouveler chaque matin. Alors, quelle est la bonté de Dieu renouvelée pour toi ce matin? Quelle est la bonté de Dieu renouvelée pour toi ce matin? Où et comment vais-je vivre une bonté de Dieu renouvelée demain matin? Est-ce que je vais la vivre en ouvrant le journal, en tournant le bouton de la radio? Est-ce que je vais la vivre dans les faits divers? Par quel moyen je vais vivre une bonté de Dieu renouvelée pour moi demain matin? Par la Bible, un feuillet de calendrier, un cantique ou un chant à la louange du Seigneur, etc. Satan, l'ennemi de nos âmes, veut me contraindre, me lier dans mes pensées négatives, pesantes et du coup qui m'entravent. Mais je peux faire diversion. Je peux combattre ces pensées. Alors comment je peux le faire? Eh bien, en les remplaçant par d'autres plus édifiantes et plus merveilleuses. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur à la gloire du Seigneur, rappelle Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Comme un enfant sevré, tranquille, et qui passe à une nourriture plus appropriée. C'est la troisième piste qui nous est fournie dans ce psaume. Être apaisé, se nourrir de choses spirituelles. Nous avons vu l'état du cœur. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, mais avoir un cœur tourné vers Dieu. La dépendance, je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées pour moi. Déposer mes fardeaux, nos fardeaux, tes fardeaux sur lui. Et puis faire le bon choix, comme un enfant sevré, apaisé, qui passe à une nourriture plus adaptée pour lui, pour sa santé, pour sa croissance, qui entretient journalièrement, quotidiennement, sa relation avec Dieu. Que de belles et bonnes expériences que cette 12e marche, le psaume 131. En résumé, humilité et dépendance. Le thème de la marche précédente, c'est-à-dire celle du psaume 130, parle du jugement de soi-même et de la confession des péchés, ce qu'on a chanté tout à l'heure, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister ?» Et cette marche 130 amène le croyant à considérer sa vraie place devant le Seigneur, c'est-à-dire une position d'humilité. Et cette position est exprimée du coup dans la marche 131 que nous venons de lire au premier verset, « Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. » Et c'est pourquoi ce psaume 131 est assez court, très court. Le croyant humble ne fait pas vraiment de longs discours. Son âme est apaisée. Il est comme l'enfant sevré qui abandonne le sein et le lait maternel pour une nourriture nouvelle. Et ce psaume-là, 131, indique, est le cantique en quelque sorte d'un croyant mûr. D'un croyant humble et dépendant. Après les épreuves venant de l'extérieur, elles sont exprimées dans la marche 123. Et de l'intérieur de lui-même, ce qui est exprimé dans la marche 130. Se glorifier ou se dévaloriser, c'est quelque part vouloir attirer l'attention sur soi. C'est la reconnaissance de soi de la pyramide de l'humaniste Abraham Maslow. La vraie humilité est d'accepter la place que Dieu nous donne, la place que Dieu me donne, en étant content de mon état et disponible pour le service. Alors dans ce psaume 131, le verset 1, humilité. Verset 2, la soumission. Et le verset 3, la confiance. Et cela sont trois vertus chrétiennes et qui résultent de quoi? Eh bien de l'expérience acquise au cours de notre pèlerinage avec Dieu. Elles amènent l'enfant de Dieu à ne plus s'occuper de lui-même, mais des intérêts du Seigneur. Le Seigneur s'occupant de nous. C'est l'exhortation pour chacun de nous ce matin que de désirer et de tout mettre en œuvre pour vivre une telle expérience que cette marche que nous venons de méditer. Et pour finir, je vous lirai ce psaume 131 dans la version français courant. Seigneur, je suis sans prétention. Mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne vise pas la grandeur, ni ce qui est trop grand pour moi. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Israël, et je dirais, peuple de son aura, compte sur le Seigneur dès maintenant et à toujours. Amen.